Bonjour, Éric Godichaud, à Bâton Rompu, sur Radio Grand Ciel. En deux émissions, une traversée de la psychanalyse qui débouchera sur une actualité brûlante, nous avons interviewé un grand psychanalyste, Gérard Bonnet.
Bonjour Gérard Bonnet, merci de nous recevoir ici chez vous à Paris. Avant de commencer, je voudrais ici profiter de l'occasion que j'ai de témoigner de l'importance de votre enseignement à l'EPCI, où j'ai eu le grand plaisir de suivre vos cours pendant 3 ans et qui m'ont beaucoup apporté. Pour moi, vous tenez l'équilibre exact qu'il faut toujours tenir, et parfois c'est le grand écart, entre une dette envers Freud, mais aussi continuer la psychanalyse, qui est une invention, un continuel remaniement des concepts qui font de la psychanalyse une pensée vivante. D'abord, parce que, à mon avis, cela intéresse nos auditeurs, comment devient-on psychanalyste et en quelques étapes marquantes l'itinéraire d'un homme et d'un psychanalyste ?
Écoutez, le plus simple, c'est quand même de marquer le point de départ, c'est sa propre psychanalyse. Il faut vraiment avoir fait un travail sur soi-même et en avoir vu l'intérêt pour se lancer dans ce travail qui est particulièrement exigeant. Donc la première condition, c'est celle-là. Je crois que de toute façon, il n'est pas possible de travailler dans le monde analytique de façon cohérente et sérieuse si on n'a pas fait sur soi un vrai travail. Bon, donc ça c'est la première chose. Alors ensuite, il y a bien sûr l'envie qui vient dans un deuxième temps de faire bénéficier d'autres de cette expérience. Quand on a compris pour soi qu'elle était efficace et qu'elle avait porté des fruits, on ne peut pas non plus se lancer avec d'autres si on n'est pas convaincu. Et la conviction dans notre travail, elle ne vient pas d'abord de la pensée ou de la théorie ou de la lecture, elle vient d'abord de moments exceptionnels qui se produisent pendant le travail analytique, où on se dit, tiens, voilà, j'aurais jamais pensé ça, je suis bien habité par tel problème, et en le clarifiant, en le parlant, je vois en effet les effets. Voilà, c'est ça la pierre de touche, c'est vraiment l'expérience. Et avec un point sur lequel j'insiste souvent, parce que les gens ont du mal à comprendre ce type de mentalité qu'il faut avoir, c'est que, je dis toujours, on ne va pas à l'inconscient, c'est l'inconscient qui vient à nous. C'est-à-dire, on ne va pas bille en tête en disant « je vais comprendre ce qui se passe en moi ou dans l'inconscient ». Non, on se met dans des conditions où ça vient. Où tout à coup, un acte manqué, un rêve, un oubli ou un symptôme nous disent « il se passe quelque chose dans cette partie inconnue de moi-même ». Et à force de la fréquenter, c'est-à-dire d'y être attentif, on finit par avoir une certaine connaissance, je dis bien une certaine connaissance de ce qui s'y passe. Et on peut commencer à la partager et à aider l'autre à la vivre. Voilà. Voilà l'essentiel de ce que je dirais pour ma part. Ensuite, bien sûr, si on s'installe, comme on dit, si on se pose comme analyste, le gros travail consiste à ne pas s'isoler d'abord, parce qu'on ne peut pas faire ce travail, comme on pourrait le croire, comme un explorateur perdu dans l'Arctique. On a besoin d'être avec des collègues parce que c'est tellement déstabilisant à certains moments, difficile à comprendre, qu'on fait ce qu'on appelle des groupes de contrôle, enfin on est quelques-uns à réfléchir régulièrement, ou bien, et ce qui est encore mieux, on prend un contrôleur, c'est-à-dire quelqu'un avec qui on va en parler, pour que cette première écoute, où on se met à travailler avec des patients, soit vraiment entourée de garanties, non pas au sens où tout sera parfait, mais où la parole qu'on va recevoir de cette personne soit décodée, avec des instruments de parole et d'échange. Voilà.
Alors, vous avez parlé à propos de l'inconscient, d'une connaissance, mais par définition, l'inconscient étant inconscient, quelle sorte de connaissance est-ce ? Est-ce que ce n'est pas une connaissance réfractée ou de seconde main, par définition ?
Absolument. Ce n'est pas une connaissance au sens de y aller bille en tête pour voir ce qui se passe. D'ailleurs, Pontalis, qui avait fait une collection qui s'appelle « Connaissance de l'inconscient », disait « c'est connaissance, c'est naître avec, c'est renaître avec ». Autrement dit, c'est se remettre dans les conditions où cet inconscient a été mis en place, c'est-à-dire la petite enfance, le milieu d'origine, et le revivre progressivement, c'est-à-dire refaire ressortir ce qui nous travaille le plus profondément, essayer de le tirer au clair. Donc c'est vraiment connaissance, naissance avec.
Et ça fait penser aussi à une réécriture un peu. C'est un rapport avec la littérature en quelque sorte. La cure, c'est comme une écriture ou une écriture.
Oui, mais alors avec la différence sur laquelle moi j'insiste beaucoup, c'est que l'écriture est quand même une organisation. C'est-à-dire on met de l'ordre. Alors que dans l'inconscient, il n'y a pas d'ordre. C'est ce qu'il y a de plus difficile à accepter, c'est que l'inconscient va dans tous les sens. C'est-à-dire, un jour, il peut vous passer des choses qui vous ont travaillé à 2 ou 3 ans, puis un autre jour, ce qui s'est passé à 15 ans, et puis tout à coup, être dans le domaine hystérique, un autre jour, un peu plus obsessionnel. Je veux dire que le problème, c'est que, la planche insistait énormément là-dessus, il ne faut pas chercher à comprendre ou à mettre de l'ordre. Alors, l'écriture peut mettre de l'ordre, mais après coup. Et puis, il y a deux sortes d'écriture. Il y a l'écriture poétique ou artistique, où là, justement, on ne met pas d'ordre, au total.
Automatique.
Voilà, où là, on est dans le domaine de l'analyse. Et puis, il y a l'écriture, par exemple, d'un roman ou d'un récit, ou même de sa vie, quelquefois, où là, on met de l'ordre, mais c'est plus l'inconscience. C'est déjà une élaboration, et elle peut quelquefois empêcher. Elle peut fermer. Enfin, c'est un gros travail que j'avais fait avec Anzieux il y a quelques années, qui lui insistait en disant que Beckett avait continué son analyse en écrivant. Moi, je lui disais non, il a mis un terme à son analyse pour pouvoir écrire. Et en fait, et d'ailleurs, je pense à un autre auteur que je connais bien, qui est Claude-Louis Combet, il dit « je ne peux plus m'arrêter d'écrire ». Parce qu'il y a quelque chose en moi qui me travaille, que je ne peux pas aller voir, ni analyser, mais qui me fait travailler. Bon, donc c'est vraiment autre chose. Voilà.
Alors Freud, il parle de construction, pourtant, dans la cure. Oui. Alors c'est quoi cette construction?
Alors là, c'est autre chose. Donc la construction dans la cure, c'est le fait d'interpréter, quand on interprète des choses qui se sont passées à certaines périodes, c'est évident que, par exemple, je sais que j'ai été traumatisé par la mort d'un petit frère quand j'avais 3 ans, je veux dire ça comme ça, je retrouve dans l'analyse des tas d'éléments qui montrent que ça a beaucoup joué dans ma vie par la suite, eh bien, je vais reconstruire l'événement. C'est-à-dire, je vais essayer de me dire, tiens, il s'est passé ça, j'ai pensé ça. Et Freud dit, de toute façon, ce que l'enfant a vécu à ce moment-là, est indicible, parce que ça a bouleversé les choses, ça a éveillé des tendances archaïques violentes. Bon, mais par contre, construire l'histoire intellectuellement, dans ma pensée, dire « Ah ben oui, ben voilà, je me souviens, il s'est pensé à ça ou ça », ça permet quand même de mettre de l'ordre un peu.
Non, c'est bon, ça marche. J'avais peur que ça marche. On coupera. Ah oui, et le rêve, Freud parle à ce propos de voie royale à l'inconscient. Il a écrit d'ailleurs un énorme livre qui s'appelle « L'interprétation des rêves ». Pourquoi met-il en valeur dans le titre même la notion d'interprétation?
Parce que, si vous voulez, le rêve en lui-même est absolument incompréhensible. Et que si on en reste à ce qu'on appelle le contenu manifeste, c'est-à-dire « voilà, j'ai rêvé de telle ou telle chose », en soi, ça ne veut rien dire. Donc il faut toujours, si on veut tirer parti du rêve, il faut interpréter. On n'a pas le choix. D'ailleurs, dans un livre qui vient de paraître sur le rêve, on insiste beaucoup pour dire que la voie royale, c'est pas le rêve, c'est l'interprétation. Parce qu'en fait, c'est en... Alors, pareil, l'interprétation, on ne peut pas la faire tout seul. On a intérêt à parler avec quelqu'un. Quelquefois, d'ailleurs, avec des proches qui vous aident à élaborer tout ce qui se dit autour. Mais en tout cas, le rêve, il faut le démonter, il faut le laisser parler, il faut le raconter, il faut associer. Freud, le premier rêve qui raconte l'injection faite à Irma, il y a un chapitre complet sur un petit rêve de rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas hésiter à prendre une feuille, à dire tout ce qui vient à l'esprit. Et à ce moment-là, on voit apparaître des pensées, des idées dont on n'aurait pas eu idée à première vue, mais qui révèle justement le travail de l'inconscient. C'est ce travail qui est important. C'est-à-dire qu'en fait, on est pris dans des mouvements internes qu'on ne contrôle pas, mais dont le rêve est un peu comme des petites émergences, quoi.
Des bulles.
Des bulles, oui, c'est ça. Donc les rêves, en tant que tels, N'apporte rien, je veux dire, si on reste au contenu manifeste. Par contre, si on interprète, mais alors au sens large, interpréter, c'est pas donner une explication, j'ai rêvé de ça, c'est que je voulais ça, c'est vraiment...
C'est pas la clé des rêves.
Voilà, hein, c'est laisser... c'est comme une comète, si vous voulez. Il y a une comète, il y a la queue de la comète, qui est énorme. Mmh. Et bien, le rêve, il y a une queue, d'ailleurs, qu'on n'a jamais fini d'interpréter. Mmh. Moi, je vois, il y a des personnes, je raconte même dans un livre, une personne dont, finalement, toute l'analyse a consisté à analyser son premier rêve. Enfin, pas directement, mais
moi... Moi, ça m'est arrivé, c'est ce que j'ai fait pendant 20 ans.
C'est incroyable.
J'ai tourné autour du premier rêve que j'avais raconté à la première séance.
C'est pour ça que c'est très important, les premiers rêves.
Ah oui, Freud, à propos du rêve, et ça c'est intéressant, parle de l'ombilique du rêve, c'est-à-dire que même s'il déplie par exemple le rêve, l'injonction faite à Irma, à un moment il y a un arrêt dans l'interprétation. Mmh. Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus?
C'est-à-dire que la partie la plus refoulée de la conscience, qu'on appelle le refoulé primaire, ce qu'on appelle aussi le ça, est impénétrable, même avec les rêves. C'est-à-dire que même le rêve va vous révéler un certain nombre de choses, mais qui sont généralement des choses qu'on appelle du préconscient, c'est-à-dire qui ont travaillé, qui ont été intéressantes, etc. Mais les vrais points de départ, c'est-à-dire ce qui a été la chiquenaude initiale, généralement on ne l'atteint pas. On devine qu'il y a quelque chose qui reste, mais voilà. Donc derrière, et c'est un des problèmes numéro un de notre travail, c'est qu'il y a toujours un point au-delà duquel on ne peut pas aller. Et qu'on suppose, qu'on laisse vivre, mais qu'on ne peut pas reconnaître ou traduire directement. La planche parle d'objets énigmatiques, c'est-à-dire ça s'est figé. Et bon, on ne voit plus très bien ce que ça veut dire. Donc ce n'est pas la peine de vouloir tout retrouver, mais on se dit, oui, il y a des choses là derrière qui continuent à phosphorer.
Est-ce que c'est pas lié à une forme de castration, finalement? C'est ce qu'a expliqué Freud, c'est qu'il n'y a pas de savoir subspecie à aeterna, comme on disait en théologie, c'était le point de vue supérieur sur l'inconscient. On n'en aura toujours qu'une connaissance parcellaire.
Voilà, c'est ce qui d'ailleurs rebute beaucoup le public actuel, si vous voulez, c'est que, ou dans les sciences psychologiques contemporaines, c'est qu'on ne peut pas concevoir que nous soyons en face d'une terrain incognita, comme on dit, d'une terre inconnue. On la parcourt, mais on n'arrive pas à savoir ce qu'elle contient. C'est-à-dire, on est toujours en surface. Il y a toujours une partie qui nous échappe. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être qu'il ne faut pas être sensible à toutes ces productions, à tout ce qu'elle fait en nous. Et c'est en étant, j'allais dire, sensible, perméable, qu'on arrive à vivre avec cet inconscient, mais pas en le connaissant au sens direct et intellectuel.
Et ça rejoint ce que dit Proust de la littérature, que ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Il insiste beaucoup là-dessus.
Oui. Ouais.
Si tu crois que là-bas, si tu crois qu'il y a mieux pour toi, va.
Si t'en coûte de voir une route sans l'emprunter, va. On t'oubliera. On peut faire ça.
Mais pour là, pour notre bonheur,
soigne tes adieux. Tu veux, il n'y a rien pour une fête ici, seulement le beau geste, seulement. Tes adieux, tu veux, nous attendons. La pluie ne mouille pas les gens comme toi. Va.
Si tu crois que là-bas les chiens n'aboient pas sur les gens comme toi.
T'oubliera, ça, on sait faire ça, mais pour là, pour notre bonheur, soigne tes adieux, tu veux, il n'y a rien. Le mot juste. Nous attendons, cher ami, seulement le beau geste, seulement.
D'écouter Bertrand Belin et Camélia Jordana. Le mot juste, c'est le titre de la chanson, n'est-ce pas une définition exacte de ce que l'on cherche en analyse? Des mots sur des mots, M-A-U-X. Tiré de l'interprétation des rêves, le fameux rêve sous-titré, comme on sous-titre les tableaux, L'injection faite à Irma, dont Freud déroule avec Maestria une longue série d'associations libres et qui butera sur cette part d'inanalysable qu'il appelle précisément l'ombilique du rêve. Car de l'inconscient, on n'aura qu'un accès à ce qui se détache du fond du lac. Rêve du 23-24 juillet 1895, et Freud d'ajouter dans une petite note, c'est le premier rêve que j'ai soumis à une analyse détaillée.
Demandez le programme et le texte de la pièce.
Un grand hall, beaucoup d'invités nous recevons. Parmi ces invités, Irma, que je prends tout de suite à part, pour lui reprocher en réponse à sa lettre de ne pas avoir encore accepté ma solution. Je lui dis, si tu as encore des douleurs, c'est réellement de ta faute. Elle répond, si tu savais comme j'ai mal à la gorge, à l'estomac et au ventre, cela m'étrangle. Je prends peur et je la regarde. Elle a un air pâle et bouffi. Je me dis, n'ai-je pas laissé échapper quelques symptômes organiques ? Je l'amène près de la fenêtre et j'examine sa gorge. Elle manifeste une certaine résistance comme les femmes qui portent un dentier. Je me dis, pourtant elle n'en a pas besoin. Alors elle ouvre bien la bouche et je constate à droite une grande tache blanche. Et d'autre part, j'aperçois d'extraordinaires formations contournées qui ont l'apparence des cornets du nez et sur elles de larges escarres blancs grisâtres. J'appelle aussitôt le docteur M, qui à son tour examine la malade et confirme. Le docteur M n'est pas comme d'habitude. Il est très pâle. Il boite. Il n'a pas de barbe.
Le programme et le texte de la pièce.
Mon ami Otto est également là, à côté d'elle. Et mon ami Léopold la percute par-dessus le corset. Il dit « Elle a une battité à la base gauche. » Il indique aussi une région infiltrée de la peau au niveau de l'épaule gauche. Fait que je constate comme lui, malgré les vêtements. M dit « Il n'y a pas de doute. C'est une infection. Mais ça ne fait rien. Il va s'y ajouter de la dysenterie. Et le poison va s'éliminer. » Nous savons également d'une manière directe d'où vient l'infection. Mon amie Otto lui a fait récemment, un jour, où elle s'était sentie souffrante, une injection avec une préparation de propylène acide propionique, triméthylamine, dont je vois la formule devant mes yeux, imprimée en caractère gras. Ces injections ne sont pas faciles à faire. Il est probable aussi que la seringue n'était pas propre. Une chanson d'Yvette Guilbert. Lorsque Freud fit un stage chez le Grand Charcot à la Salpêtrière en 1899, Madame Charcot, lors d'un dîner en ville, conseilla à Freud d'aller entendre Yvette Guilbert. Ce fut le début d'une longue histoire, d'une correspondance régulière entre le psychanalyste et la chanteuse, connue pour ses chansons tournant autour du féminin, de l'âme féminine, ce qui ne déplut pas à Freud qui sut s'entourer tout le long de sa vie de femmes d'exception, Lou Andrea Salomé, Marie Bonaparte. Avec cet art admirable du chant parlé, que l'on retrouve dans la musique dite savante du Pierrot lunaire de Schoenberg, elle à lui, Yvette Guilbert, imagine le dialogue d'une femme quittée à l'homme qu'elle aime malgré tout. Attention, écoutez jusqu'à la fin, émotion garantie.
D'elle à lui, par Yvette Guilbert. Tu m'es Cory Léon, qu'il faut que je t'oublie, parce que dans quelques jours tu vas te marier. Ce que tu me demandes là, mais c'est de la folie, car il y a des amours qu'on ne peut oublier. Je te l'ai toujours dit, tu fus le premier homme qui m'est chaste et pure et tenu entre ses bras. Ça te fait ricaner, ricane mon bonhomme. Tout de même, c'est une chose qu'une femme n'oublie pas. Ah oui que j'étais pure, c'était ridicule. Des choses de l'amour, je savais rien de rien. À ce point que toi qui n'es pas pourtant un hercule, tout ce que tu faisais, je trouvais ça très bien. T'aurais pourtant pas fait comme ce colosse. Des choses épatantes entre tes deux repas. Vois-tu mon beau vieux, non je ne suis pas rose. Mais quoi, il y a des choses qu'une femme n'oublie pas. En ce temps-là, t'étais pas mis comme un prince, tu gagnais quelque chose comme 100 francs par mois. Quand on a le ventre creux, on a la taille mince, j'aime pas les gros hommes. Ah, c'était de mon choix. Je menais une vie sobre, tout autant que rangée. Tu te souviens plus de ça, hein? À présent, t'es gras, parce que j'en ai bouffé de la vache enragée. Et ça, c'est une chose qu'une femme n'oublie pas. Ça ne t'empêchait pas de faire des petites bonbonses et de chercher ailleurs un autre bien que le tien. Et tu m'en as fait voir de toutes les nuances. Tu prétendais même que le jaune m'allait bien. Et quand je pense que moi, je t'ai été fidèle. Dans la vie d'une femme, ça compte. En tout cas, le fait est assez rare pour qu'on se le rappelle. Et c'est une bêtise qu'une femme n'oublie pas. Et le jour où je t'ai dit, je crois que je vais être mère, un petit enfant de toi, c'était fabuleux. Tiens, je l'ai là encore, ta voix dans l'oreille. Pas de petit salé, on est assez deux. Ah, tu te fichais bien de ma vie, de ma souffrance. Ça prouve, mon pauvre vieux, que si tes mufles et lâches, c'est pas d'aujourd'hui que j'en fais l'expérience. Mais il y a des choses qu'une femme n'oublie pas. Ah, si je remue tout ça, oh, c'est que j'ai tant de peine. Je croyais qu'on vivrait toujours tous les deux. n'irai pas chez toi à te faire des scènes. Tu veux t'en aller, va-t'en. Sois heureux, mais t'oublier. Non, je t'avoue ma faiblesse. Songeant au passé, je pleurerai tout bas. Car ce temps, la voiture, c'est toute ma jeunesse. Et ça, c'est une chose qu'une femme n'oublie pas.
Freud se méfiait de la musique. Peut-être les sentiments puissants et incontrôlables qu'elle forme en nous l'inquiétaient-ils, comme un écho d'une voix maternelle, des chansons yiddish que lui chantait sa propre mère. En tout cas, une exception, Freud adorait l'opéra de Richard Wagner, Les Maîtres Chanteurs, parce que c'est le récit d'une vocation, comme lui enfant. Il avait désiré être Hannibal, un conquérant, conquérant qu'il finit par être, mais des zones, des territoires obscurs de la psyché. Eh bien, je vous dis au mois prochain pour la seconde partie de cet entretien exceptionnel avec Gérard Bonnet. Au mois prochain, merci à Simon à la technique, Géraldine pour la programmation musicale.